à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar. Bonjour Christine.
Bonjour Francis au micro et bonjour Francis à la régie.
Ouais, bonjour Francis. Alors ce matin, et Christine, nous parlons d'un spectacle assez extraordinaire et d'un texte très important parce que quasiment un classique. Quartet de Heiner Müller, mis en scène par Jacques Vincé, et que nous voyons assez rapidement dès la mi-avril
dans la grande salle. Oui, le mardi 16 avril à 19h, le mercredi 17 avril à 20h, un spectacle qui va durer 1h15 et, comme le dit Francis, à ne pas manquer car le texte est absolument remarquable.
Ah oui, oui. Je pense que peut-être certains connaissent ce texte parce que ça s'est joué à un moment donné un peu plus. Maintenant, Heiner Müller se joue moins, globalement moins. Nous en parlons quand même ce matin parce que c'est très important au fond, surtout par les temps qui courent. Alors, Quartet, qui a été écrit en 1980, reprend donc les liaisons dangereuses de Coderlos de Laclos, c'est-à-dire, au fond, c'est une réécriture de Coderlos de Laclos, une pièce de 1782.
Oui, alors en fait, le texte de Laclos est un roman épistolaire de 177 lettres qui s'échangent entre une quinzaine de personnages, mais les personnages principaux sont un libertin qui s'appelle Valmont, mais surtout une dame qui s'appelle Madame de Merteuil et qui est une libertine elle aussi, qui cache très très bien son jeu et qui était une ancienne amante de Valmont et qui va utiliser Valmont pour une vengeance parce qu'elle veut se venger d'un amant qui la délaisse, qui s'appelle Gercourt, et elle veut faire en sorte que la promise de ce Gercourt, qui s'appelle Cécile de Volanges, soit déniaisée, déflorée avant le mariage par Valmont. Mais Valmont, lui, est
amoureux.
Il va accepter quand même cette espèce de contrat. Mais lui est amoureux d'une femme extrêmement pieuse, Madame de Tourvel. Alors en fait, au départ, il n'est pas forcément amoureux, mais comme c'est quelqu'un qui aime les défis et qui a besoin de résistance,
et qui lui résiste,
qui a besoin de résistance pour pouvoir jouir, en fait. Petit à petit, quand même, il va tomber amoureux de cette Madame de Tourvel, extrêmement pieuse, extrêmement charmante. Et cette liaison va lui coûter d'une certaine façon son destin de libertin.
Ouais. C'est une histoire de libertinage, d'amour si on veut, de sexualité surtout, qui a été donc reprise par Heiner Müller sous le titre de Quartet. Parce que, bon, il y a ces quatre personnages, mais au fond, il y en a bien plus dans les lettres de Coderlos de Laclos. Mais chez Valmont, Valmont a fait une réduction à 4. Heiner Müller a fait une réduction à 4, mais une réduction qui est en fait à 2, c'est-à-dire qui joue 2, qui joue les 4. Ça qui est assez passionnant, puisque Quartet, c'est Madame de Merteuil qui va jouer Valmont, et qui va jouer également Cécile de Volanges, donc la jeune fille à déniaiser, alors que Valmont lui-même joue lui-même d'une certaine façon, et Madame de Tourvel. Et donc, il joue à deux les quatre, donc c'est un jeu de théâtre dans le théâtre, au fond.
Oui, avec aussi toute une réflexion sur une forme de travestissement et de métamorphose, l'un devenant l'autre, et une espèce de condensation des liaisons dangereuses, mais avec des enjeux absolument terribles, parce que on a l'impression que dans la réécriture, c'est vraiment le dernier combat sur une sorte de ring, enfin la dernière
une
joute.
Une arène,
la dernière joute. Et il va bien sûr y avoir mort d'homme.
Oui. Alors pour rentrer un peu dedans, parce que donc on est devant la structure même des liaisons dangereuses, mais cela a un sens pour Heiner Müller. Je pense qu'il est important quand même de resituer un tout petit peu cette affaire-là, parce que la didascalie dit que nous sommes soit dans un salon d'avant la Révolution ou un bunker après la Troisième Guerre mondiale. Ce qui est quand même assez curieux. Or, effectivement, les deux dates que je vous ai données, 1782, c'est le salon d'avant la Révolution, et évidemment 1980, lors de deux siècles après, lorsque se joue... Lorsque Heiner Müller écrit Quartet, nous sommes dans un bunker d'après la guerre, la Troisième Guerre mondiale. Alors il faut juste avoir en tête que 1980, c'est vraiment l'époque des Pershing. C'est l'époque où l'OTAN réarme massivement l'Europe, l'Union soviétique vient d'envahir l'Afghanistan et on est effectivement à ce moment-là, un peu comme aujourd'hui, devant quelque chose comme une troisième guerre mondiale.
Possible, ouais.
Possible. Et alors pourquoi? C'est-à-dire pourquoi ce jeu entre les deux? Parce que pour Heiner Müller... au fond, le nazisme et le stalinisme, parce que Müller a été particulièrement, je dirais, mis de côté en RDA, mais il y reste parce qu'il est profondément communiste, il est attaché à ce que fut la révolution de 1919.
Rosa Luxembourg. Été mis de côté, oui, en particulier parce que un grand nombre de ses pièces sont des pièces
critiques à l'égard du régime. La RDA. Ensuite, il s'est mis dans les années 60, il s'est mis à reprendre les grandes pièces, Sophocle, Shakespeare, et puis du coup aussi Coderlo de Laclos, qui n'est pas une pièce d'ailleurs, qui est un texte qui lui tenait à cœur, les grands moments de la culture européenne qui a été au fond détruite, parce que il y a eu une destruction par le nazisme, destruction par le stalinisme, et donc il s'agissait de reconnecter avec tous ces fantômes, c'est-à-dire et de prendre tous ces éléments, c'est-à-dire aussi bien Sophocle que Shakespeare et que d'autres qui sont maintenant devenus des mythes. Et
oui.
nous sommes devant des mythes, nous l'avons d'ailleurs revu dernièrement avec Phèdre, nous sommes devant un mythe et devant les ruines de ces mythes.
Et d'ailleurs, Heiner Müller parle lui-même d'un dialogue avec les morts, il est marqué profondément par l'idée de la destruction, enfin d'une histoire avec une grande hache. Enfant, il a vu effectivement ses parents arrêtés par les nazis, son père vraiment torturé, sa mère également. Et ensuite, il a connu tous ces bouleversements et il est travaillé par cette idée que la destruction et les pulsions négatives sont à l'œuvre, quelque chose qui pourrait paraître extrêmement pessimiste, mais qu'il parvient à transcender justement par cette réécriture et par ce dialogue avec le passé.
Mais aussi l'idée de ce que faisaient les Grecs, c'est-à-dire le modèle même de la tragédie grecque qui entretenait, qui reprenait les mythes pour les remettre au goût du jour, puisque là aussi, donc, ce qu'il faut faire, et c'est pourquoi d'ailleurs ces spectacles-là, il a pu les jouer, ces textes-là, il a pu les jouer en RDA, parce que la RDA cherchait justement à se donner un certain statut de retour.
Oui, alors en fait, ils ont surtout été célèbres à l'Ouest, puisque notamment des grands metteurs en scène français comme Sobel qui l'ont joué beaucoup, et en fait, cette notoriété à l'Ouest lui a servi, puisque au moment, comme tu le dis Francis, où la RDA veut en quelque sorte avoir une meilleure image, et notamment au plan culturel, c'est un peu un soft power avant la lettre, Heiner Müller va effectivement être à nouveau adoubé dans son propre pays. Et ensuite, il va quand même avoir un rôle aussi au moment plus tard, après 1980, avant la chute du mur en 1989, il va bien sûr tenir des conférences et prononcer des discours qui vont dans le sens de cette chute du mur.
Oui, et ce qui lui permet au fond de prendre ou de réécrire des textes pour mettre en relation le présent avec justement tout ce passé. Parce que ce que dit Müller, c'est que au fond, il y a toujours eu l'idée de vouloir arrêter le temps. Staline veut arrêter le temps. Aujourd'hui, à Moscou, on veut arrêter le temps, ce temps qui aurait été l'éternité même de la Grande Russie, alors que tout est pris dans le mouvement même de l'histoire. Et alors, ce qui est vraiment incroyable, c'est que cette façon d'arrêter le temps est aussi liée à nos pulsions profondes, c'est-à-dire vouloir arrêter le temps, c'est un peu comme vouloir qu'une érection ne s'arrête jamais. C'est-à-dire voilà. Qu'on peut absolument tout perforer, tout dominer, tout écraser. Et d'où d'ailleurs cet étrange passage de la question de l'histoire et du temps
à la question personnelle des
désirs des pulsions. Alors les désirs et les pulsions qui sont absolument destructrices sont le cœur même de Quartet. Quartet montrant que l'amour ou la sexualité sont essentiellement des éléments de pouvoir, d'emprise et de destruction, de domination.
Oui, et c'est assez terrible. Le texte en lui-même, d'ailleurs, est d'une crudité par moments tout à fait étonnante et d'une ironie absolument cinglante. Vous connaissez peut-être tous, d'ailleurs, ou quelques-uns d'entre vous, la version extraordinaire qui avait été montrée au Festival d'Avignon avec Jeanne Moreau dans le rôle de Madame de Merteuil et Samy Frey dans le rôle de Valmont. C'est une version que vous pouvez écouter à la radio et que vous pouvez retrouver très facilement. Et où Jeanne
Moreau. Une version de 2007 du Festival d'Avignon.
Oui, et où Jeanne Moreau est absolument extraordinaire. Ouais.
Ouais. Et pour citer ce moment, qui pourrait faire que s'arrêtent et se dressent les horloges du monde, l'éternité comme érection perpétuelle. Alors l'éternité comme érection perpétuelle, c'est dans ce sens que pousse la marquise de Merteuil, qu'elle pousse Valmont pour d'ailleurs du coup la venger, mais aussi mettre en place ce phallogocentrisme, je ne sais pas comment l'appeler, qui domine l'ensemble de la situation. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les jeux où Valmont lui-même devient
Madame de Tourvel,
eh bien, il montre aussi toute sa fragilité. D'ailleurs, à un moment donné, Valmont dit lui-même, je pourrais être une femme.
Oui, il va reconnaître que, effectivement, il y aurait, même avec un certain plaisir, dit-il, il pourrait être une femme. Et on sent bien que Madame de Merteuil a perçu à cet endroit-là la faille. Et on ne va pas divulgâcher la fin de la pièce, mais effectivement, à ce moment-là, il se livre en quelque sorte à son ennemi et il va subir, comme si
à la fin du 18 ou vers la fin du 18e siècle, juste avant la Révolution française, eh bien quelque chose de cette pulsion de destruction se manifester dans le libertinage français, par exemple chez Sade. Il y a toute la fin de Quartet est largement dominée par Sade. On retrouve d'ailleurs la manière aussi dont Pasolini a filmé les 120 jours de Sodome dans Salo, c'est-à-dire ce même rapport à ce que sera le 20e siècle et la manière dont les corps ne sont plus que de la viande et dont la pornographie elle-même n'est plus rien d'autre que un univers purement matériel.
Oui, une marchandisation
où chacun puise essentiellement son pouvoir et sa domination. Et il me semble que là, c'est une façon de montrer ce qui est advenu de ce monde, de notre monde à nous, par rapport à quelque chose qui se jouait encore sur le mode du jeu à la fin du XVIIIe siècle. Enfin, en tout cas, il me semble.
Oui, peut-être bien, et c'est en même temps aussi, je pense, pour nous, d'entendre ce texte dans sa crudité, dans sa violence, et en même temps dans une langue absolument superbe. Parce que ce qui est aussi tout à fait étonnant, c'est que ces gens maîtrisent, bien sûr, la philosophie et la théologie d'une certaine manière. En tout cas, ils sont imprégnés de christianisme et de langage biblique. Et donc, en fait, il y a des phrases qui sont avec un jeu ironique. Il y a des phrases incroyables, bon, bien sûr, qui sont totalement blasphématoires, puisque on utilise le langage de la religion pour parler de sexualité, de domination, de pouvoir sur les corps, et c'est absolument savoureux à entendre pour nous, parce que la langue est merveilleuse, et en même temps, ce qui se dit est effroyable. Mmh.
Mais ce qui est en jeu, c'est comment cette civilisation, au fond, va vers l'autodestruction. C'est d'ailleurs l'idée vraiment de Heiner Müller. On va vers une sorte d'autodestruction généralisée, en tout cas de la civilisation occidentale. Et du fait que à la fin il ne reste rien, mais c'est plus général, ça concerne sans doute l'humanité tout entière, un petit peu comme chez Nietzsche où l'humanité se serait autodétruite dans un moment très rapide comme ça, c'est-à-dire il n'y a rien eu que ça, c'est-à-dire une pulsion d'autodestruction de l'ensemble de la civilisation occidentale, et puis à la fin il ne reste rien et de toute façon on reste seul, il y a cette solitude devant le néant absolu qui fait Heiner Müller. À la fin, Madame de Merteuil, les autres sont morts. Madame de Merteuil reste seule et elle le dira. Et cette phrase incroyable, à présent, nous sommes seuls. Cancer, mon amour, 15 ans après, eh bien, il sera seul. Heiner Müller va mourir d'un cancer de la gorge.
Oui, c'est sidérant. Alors, tel que nous en parlons là ce matin, on a l'impression que le spectacle va être extrêmement pessimiste.
C'est tout le contraire.
Que c'est vraiment nada, il n'y a plus rien, cancer. Mais il y a aussi mon amour, tout de même. Et c'est absolument jubilatoire aussi de voir ces deux êtres jouter ensemble, mais comme si le combat était ce qu'il y avait de plus agréable à vivre, hein, malgré
le risque
de la défaite.
Et le rire, c'est-à-dire, les formules sont telles, chaque moment du texte peut être une formule qu'on garde en tête, parce que on a rarement entendu ça.
Et donc,
y a des éclats de rire dans la salle, c'est-à-dire, vous ne pourrez pas vous empêcher de rire.
En
réécoutant Jeanne Moreau, bah on éclate de rire de ce qui se dit.
Et on espère que la mise en scène de Jacques Vincet va nous faire rire aussi, et dont nous parlons tout à l'heure plus dans le détail. Mais puisque quand même il est aussi question d'amour, écoutons une chanson de Zao de Sagazan, Mon inconnu. On ne connaît jamais celui que l'on aime.
Je crois que je tombe amoureuse d'un inconnu. Est-ce possible, mon père? Est-ce que vous en avez déjà vu des gens qui tombent amoureux d'autres inconnus? Ah, est-ce possible dans la cour des grands? Mais ce gars-là ne m'est pas si inconnu que ça, non, non. De mon côté, j'en ai rêvé des millions de fois. Alors certes, je le connais seulement à ma façon, mais façonner des garçons, c'est mon truc à moi. Ah. Amoureuse d'un inconnu, impossible, mon père, de l'oublier. Depuis que je l'ai vu, j'en ai honte, en manque d'amour ou détraqué. Ah. Putain, je suis détraqué, mais ce gars-là ne m'est pas si inconnu que ça, non, non. De mon côté, j'en ai rêvé seulement 8 fois. Alors certes, je le connais seulement à ma façon, mais façonner des garçons, c'est mon truc à moi. Ah. Mon truc à moi. Ah. Mon truc à moi. Je suis amoureuse de l'inconnu, l'imagination qu'on croise au coin de la rue, de l'histoire que je m'invente. Je le contrôle en continu.
Continue.
Vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar avec Christine. Ce matin, nous parlons de Quartet de Heiner Müller, mise en scène par Jacques Vincet, que vous allez voir très prochainement.
Oui, le mardi 16 avril à 19h, le mercredi 17 avril à 20h, un spectacle qui dure 1h15 d'une folle densité, comme vous l'avez compris.
Oui, et à ne pas rater, puisque nous avons finalement beaucoup parlé de la pièce et de cette réécriture des liaisons dangereuses, une réécriture qui va vers le strict minimum qui est vraiment la matière charnelle de viande, d'excréments. On va très loin jusqu'à la mort et des rapports entre la jouissance et la mort. Voilà que Heiner Müller reprend des lettres que s'envoient ces libertins que sont Madame de Merteuil, le marquis de Valmont, le vicomte de Valmont, oui. Cécile de Volanges et Madame de Tourvel.
Oui, tout à fait. Et pour incarner ces figures de fauves issues du XVIIIe siècle, mais vraiment quand même du XXe siècle, et, il y a deux grands acteurs. Jacques Vincet a voulu travailler avec des acteurs formidables. Hélène Alexandridis pour Madame de Merteuil, une actrice avec laquelle il avait déjà travaillé dans d'autres pièces. Et Stanislas Nordet, que vous avez pu voir à Colmar l'année dernière dans Clôture de l'amour, ancien directeur du TNS et qui lui-même aime énormément la littérature et la diction des mots de façon jouissive et qui va incarner le vicomte de Valmont.
Alors surtout, ils sont dans un décor incroyable parce que Vincet les a placés à haut niveau d'esthétique. On peut dire ça comme ça, parce que c'est au fond l'esthétique du XVIIIe siècle, complètement baroque. Alors la chose qui se dit est tellement, je dirais, animale et à ras de terre, que d'un autre côté, on est dans les hautes sphères du XVIIIe siècle, avec des voilages, des habits extraordinaires là aussi.
Oui, il s'est associé avec une costumière qui travaille beaucoup pour le cinéma, et en particulier pour le cinéma d'époque, qui s'appelle Anaïs Roman, et qui a reconstitué des costumes inspirés vraiment du XVIIIe siècle, des costumes extrêmement couvrants, et qui vont au fur et à mesure de cette joute à mort entre les deux personnages évoluer, et on ne va pas divulguer là non plus l'effet qui est produit. Et de l'autre côté, l'espace scénique, enfin pour le costume encore, il y a aussi l'importance des perruques.
Des perruques qui sont des perruques immenses d'ailleurs qu'on imagine, mais c'est aussi un monde divin au fond, parce que c'est un monde divin où on peut tout se permettre, c'est-à-dire où tout est possible précisément, parce que maintenant là on est Dieu, donc Dieu étant mort, on le remplace, si on pouvait le remplacer, mais malheureusement évidemment il y a le temps, il y a la mort qui elle-même va atteindre les protagonistes.
Oui, et puis vous allez être impressionné par effectivement cette perruque incroyable que portent les comédiens, perruque qui a été créée par Cécile Kretschmar, que l'on voit dont on voit le travail à la fois de maquilleuse et de créatrice de perruques dans beaucoup de spectacles. Et bien sûr, pour le travail des acteurs, ça devait être assez incroyable d'avoir à jouer avec ces accessoires qui sont vraiment des accessoires de jeu. Et d'ailleurs, Jacques Vincet, dans une vidéo, nous précise que en fait ils ont commencé par d'abord utiliser les costumes et la perruque avant même de répéter le texte, parce qu'il fallait déjà voir si ça pouvait fonctionner.
Oui, d'autant plus que évidemment ce décor va changer. Et comme on est à la fois dans un salon d'avant la Révolution, mais qu'on est aussi dans un bunker, on verra quelque chose de cette transformation qui est au fond la transformation même de la société occidentale depuis le XVIIIe siècle. Et ce qui s'est passé, les guerres, la monstruosité globale du XXe siècle, qui d'ailleurs est accrue et donnée comme telle dans le texte. Oui. Dans ce qu'ils se disent.
Oui, donc effectivement...
Madame de Tourvel, qui va se suicider, Madame de Tourvel, d'ailleurs, à la fin, par les traits mêmes et par ce que dit, puisque c'est Valmont qui parle pour elle, qui parle à son nom, eh bien elle donne un texte incroyable sur la femme et entre autres ce que ne seront jamais les hommes. Et puis là on retrouve aussi la mort connue maintenant de la femme de Rainer Müller qui était morte par le gaz en 1966. Il le rappelle ici ou là parce que elle n'a pas pu survivre au traumatisme de la guerre, puisque les bombardements, elle a été ensevelie par les bombardements et puis elle a retiré des décombres sa propre famille, elle s'en est jamais remise.
Oui, et donc il y a des choses qui sont dites sur la place de la femme, des choses bien sûr sur la mort, comme tu l'évoques encore à plusieurs niveaux, mais dans le décor choisi par Jacques Vincey, bon, il a fait beaucoup de recherches, et en fait il est parti donc de la boîte noire du théâtre, mais il l'a transformée en une boîte blanche sur laquelle effectivement va se révéler une vérité terrible, comme vous l'imaginez d'après notre propos, et même si nous ne voulons pas décrire la totalité du décor, ce blanc de bâche de plastique va être transformé pour évoquer effectivement toutes les destructions possibles du XXe siècle.
Du XXe siècle. Et puis il y a la musique. Alors il y a un superbe musicien, c'est-à-dire Alexandre Meyer, qui accompagne l'ensemble de ce texte.
Oui, alors comme souvent, la musique...
Un guitariste.
Oui, la musique vient créer une profondeur, des suspensions aussi. Elle n'est pas illustrative, mais elle élargit en quelque sorte les émotions. Elle leur donne de l'ampleur. Et Alexandre Meyer a souvent travaillé déjà avec Jacques Vincey et sa présence va être peut-être comme l'image, comme l'ombre, alors de Rainer Müller lui-même peut-être ou de la mort en fait en elle-même mais dans son autre dimension.
Oui, ce qu'il faut surtout relever et nous en avons longuement parlé dans la première partie, c'est le jeu permanent, c'est-à-dire il joue à jouer, il se joue les uns les autres. Et tout ça avec l'idée que le tourment de vivre, c'est surtout de ne pas être Dieu. Il y a toujours ce et du coup on joue à quelque chose. On joue à être Dieu et puis on va nécessairement mourir d'une manière ou d'une autre. Parce que ce pouvoir qu'il pense avoir, pouvoir même sur la sexualité, parce que sur la puissance, puisque Valmont est pris complètement dans cette affaire-là. Et effectivement, ces scènes-là sonnent étrangement aujourd'hui, pour y revenir, par rapport à tout ce qui est MeToo et par rapport à tout ce qui aujourd'hui est la question du genre. Et là, le texte joue avec les fantômes, c'est-à-dire ce sont des fantômes qui nous parlent tout autrement aujourd'hui, sans doute qu'ils ne faisaient sourire ou plaisir au XVIIIe siècle.
Oui, et en même temps, si on pense à d'autres dramaturges qui ont parlé de cette idée de la finitude ou de la présence de la mort, on peut penser à Beckett où il y avait une extinction progressive
au Thomas Bernhard, parce que on est assez proche parfois de Thomas Bernhard ou
Thomas
Jelinek.
Bernhard, le langage est encore là. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est quand même fabuleux aussi chez Rainer Müller, là, c'est que la jouissance, alors que tout est travaillé en sous-main par la mort à l'œuvre, la jouissance, elle est dans le verbe aussi.
Elle est
dans
complètement
le langage.
Dans le verbe parce que on parle de jouir, mais on meurt. Et donc, là, on est dans des sphères lacaniennes où la jouissance ne peut être que la mort d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire aller vers ce lieu-là, ce qu'on a dans Sade. Bon, on est dans cette volonté absolue de jouir qui ne peut être que le passage à sa propre destruction.
Oui, sans doute, mais en même temps, pour les spectateurs que nous allons être et pour les auditeurs, nous-mêmes, en tant que spectateurs, nous allons jouir de la joute verbale entre ces deux personnages incroyables. Et sans doute, comme nous l'avons dit déjà, nous allons rire par moments, sourire, et en même temps être peut-être complètement dans l'effroyable et atterrés par la noirceur finalement, de cette vision du monde.
C'est d'ailleurs Merteuil qui est d'une noirceur incroyable. C'est-à-dire que quand on entend, lorsqu'on réécoute Avignon, quand on entend Jeanne Moreau, c'est extraordinaire. Et puis la dernière phrase, lapidaire qui tombe, cancer mon amour, vous verrez. En tout cas, nous vous invitons vraiment à venir voir ce spectacle et écouter ce texte. Donc, redisons-le.
Oui, c'est le mardi 16 avril à 19h, le mercredi 17 avril à 20h, 1h15, d'un texte, comme vous l'avez compris, absolument étonnant et incroyable.
Oui, là, on peut dire vraiment, vu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que c'est vraiment vive le théâtre et que le théâtre a quelque chose à dire.
Vive le théâtre.
À bientôt.